Quand on parle d'écologie et d'inégalité sociale, on a tendance à regarder d'un mauvais œil les entreprises et encore plus la finance. Et aujourd'hui, je reçois Bertrand Badré, qui a été le directeur général de la Banque mondiale de 2013 à 2016, le directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement, changer le monde ?». Il est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Lacan Orange. Et avec lui, on va vraiment aborder la compréhension du système, comment ça marche, pourquoi on n'arrête pas de parler de croissance, qu'est-ce que c'est que la croissance, d'où ça vient, c'est quoi l'histoire, pour essayer de voir aussi comment ce système il peut évoluer, changer éventuellement, puisqu'on en a besoin, et voir comment la finance peut avoir un impact positif dans la transformation responsable dont la société a besoin. C'est une discussion qui est passionnante, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bertrand.
Bonjour Grégory.
On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut sembler rébarbatif et surtout, entre guillemets, ennemi, qui est la finance. J'aimerais d'abord comprendre, parce que c'est pas commun de parler de finance et de développement durable. En général, on a tendance à penser que ça s'oppose, puisqu'on a tendance à penser que la finance est très court terme et que les problématiques écologiques et sociales sont plutôt très long terme. On va y revenir. C'est quoi le fondement de notre système? Comment ça fonctionne aujourd'hui?
Alors, le système dans lequel on évolue aujourd'hui, le paradigme, ce qui finalement, pour faire du marxisme un peu simpliste, l'infrastructure qui porte le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a émergé dans les années 70. Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on va célébrer, ou en tout cas noter le 13 septembre, le 50e anniversaire d'un article fameux de Milton Friedman, le grand économiste de Chicago, dans le New York Times. C'est le fameux article où il dit « L'objet social de l'entreprise est de faire du profit ». Ça aura 50 ans dans quelques jours. Et c'est important de garder ça à l'esprit parce que ce n'est évidemment pas tout ce qui porte le système, mais c'est ce qui le symbolise au plus haut point. Et qui est parfois d'ailleurs un peu caricaturé. Milton Friedman était un économiste génial, un type très très intéressant, et donc résumer sa vision de la finance à ses seuls quelques mots serait un peu excessif. Il a d'ailleurs dit et écrit que c'était vrai dans la limite de l'acceptation par la société. Mais comme c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, on a laissé tomber la note de bas de page et on s'est contenté de dire, bon voilà, on va maximiser le profit. Ce qui s'est traduit de manière, je dirais, managériale par ce qu'on a appelé la valeur actionnariale, le capitalisme actionnarial, le shareholder value, shareholder capitalism en anglais, ce qui s'est traduit sur le plan politique par la révolution conservatrice en Grande-Bretagne avec l'élection de Margaret Thatcher en 79 et aux États-Unis avec l'élection de Ronald Reagan en 80 et puis évidemment dans tout l'Occident et même en 89, croyait-on, sur l'ensemble de la planète, c'était la fin de l'histoire. L'économie de marché dans sa version années 80 avait triomphé et on allait voir ce qu'on allait voir. Et donc c'est ça le cœur. Alors ça s'est appelé, ça s'est décliné, ça s'est appelé, moi qui ai travaillé un peu à la Banque mondiale, le consensus de Washington qui était d'une certaine manière la potion conservée aux gens qui bénéficiaient du soutien international. Alors là aussi, il ne faut pas la caricaturer, mais c'est vrai que dans les principaux attributs de ce consensus, dans les principaux attributs de ce modèle néolibéral ou de cette révolution conservatrice, il y a plusieurs noms, il y a effectivement la privatisation, la déréglementation, l'ouverture des frontières, le commerce, enfin, autant de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Et la réalité, c'est que ça a quand même plutôt bien fonctionné au début. Les frontières se sont ouvertes, c'est vrai qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et, croyait-on, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, ben finalement, on avait une planète qui adhérait à peu près au même corpus de règles. Et on a dit, ben ça y est, c'est gagné. Et on s'est réveillé avec la gueule de bois en 2007-2008 parce que ce système qui avait plutôt bien fonctionné a montré ses limites, s'est fracassé. Et en 2007-2008, finalement, on ne s'est pas posé la question du système. On a fait de la médecine d'urgence, on a fait du bouche à bouche, on a colmaté les brèches, on a et d'une certaine manière, on a réussi. On n'est pas mort. On ne serait pas là pour en parler si on n'avait pas empêché l'effondrement complet après la faillite de Lehman Brothers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas répété les erreurs des années 30. On n'était pas à la veille une troisième guerre mondiale, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas profité de cette crise pour traiter au fond les faiblesses qui étaient révélées. Ce drame du subprime. Et donc, on se retrouve 10 ans après avec une nouvelle crise, qui n'est pas une crise financière, mais qui montre qu'on n'a pas traité ces problèmes. Et donc, aujourd'hui, on vit encore très largement sur ce paradigme de l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit. au bénéfice de l'actionnaire. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un biais court-termiste. Mmh. Et deuxièmement, c'est un biais très financier. Et donc, ça, c'est pas forcément des choses que les gens comprennent ou ont envie d'entendre, mais ça rythme, pour tous ceux qui travaillent dans ces fonctions, ça rythme leur vie. La manière dont on compte les choses, la manière dont on paye les choses, la manière dont on raconte les choses, ben, elles sont liées à un certain nombre de principes. Et donc, on en est là aujourd'hui. C'est un système qui a une date de naissance, qui a eu des développements, qui aura peut-être une date de mort. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui est gravé dans le marbre pour l'éternité. Mmh. Et donc, on a un rythme. Ben, ce rythme me fait penser que il faut qu'on passe à une autre étape.
C'est ça. C'est ce que décrit un peu le sociologue Michel Maffezoli quand il dit, en fait, on est en train de changer de période complètement, où on est en train de passer à une période qui était très individualiste, à quelque chose qui est beaucoup plus autour des tribus, quelque chose qui était très ancré dans le capitalisme, à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, ou en tout cas moins dans cette histoire de progrès, de croissance.
Alors, je pense qu'il faut en partie l'espérer. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas automatique. Mmh. Ce n'est pas automatique. La force de la formule l'objet d'entreprise est de faire du profit, elle est extraordinaire. Enfin, faut pas se raconter d'histoire. Ce qu'on appelle l'utilitarisme économique, vous valez ce que vaut votre valeur ajoutée. C'est compliqué à contrer dans la vraie vie. Mm-hmm. Ça rentre bien dans le tableur Excel, hein. Donc, pour l'en sortir, il va falloir un peu ouvrir le capot, mettre les mains dans le moteur, sortir le tournevis et la clé et se salir les mains.
Hein. Et alors, justement, aujourd'hui, il y a. En fait, c'était intéressant. On parle beaucoup de croissance, on n'arrête pas de dire il faut de la croissance, il faut de la croissance, en particulier à sortir de cette crise sanitaire. Tout le monde parle de croissance, les politiques parlent de croissance. Et d'un autre côté, on voit bien que ce système, il a des limites. D'abord parce que les ressources minières sont limitées, mais aussi tout simplement parce qu'on pollue beaucoup trop, c'est évident, et qu'on ne sait pas découpler, enfin, à ce que je sache, la croissance financière et la croissance de la pollution. À moins que vous ayez
je suis venu sans ma baguette magique.
Avec la baguette magique. C'est quoi la croissance? Comment on fait? Moi, j'ai vu des gens au MEDEF cet été rire quand on aura commencé à leur parler de décroissance et de peut-être du fait que les gens allaient moins travailler. Donc, ils se sont moqués de la personne qui disait ça.
De même que je parlais de l'anniversaire de Milton Friedman, l'an dernier, on fêtait, si je puis dire, on se rappelait le 90e anniversaire du crack de 1929. Et c'est intéressant parce que c'est la dernière très grande crise qu'on a très mal gérée. Ça s'est fini en dépression, guerre mondiale, tragédie. Voilà. Heureusement, on n'a pas revécu ce film. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après la Grande Dépression de 1929, c'est le moment où on a commencé à changer nos instruments de mesure. Ça fait pas la une des journaux.
C'est là où on a créé le PIB, c'est ça?
On a fait deux choses. Et de manière très intéressante, on a créé la comptabilité nationale, essentiellement avec un apport français-américain, avec des Anglais aussi. Et donc, c'est là que Keynes parlait de demandes agrégées. Et on a commencé à dire que ces demandes agrégées, ça ressemble au PNB, comment ça marche. Et on a commencé à calculer et à mesurer ce qui est devenu la croissance. Donc, ça date vraiment, le thermomètre public, il date de l'après 1929. La crise a poussé à dire comment on mesure. Et c'était finalement assez aligné avec les approches keynésiennes. Mmh. Et on a vécu avec ce thermomètre. Ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, en 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait mandaté Joe Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi pour réfléchir à une nouvelle mesure. Ils ont fait un rapport, puis qui n'a pas été suivi des faits. Mais il avait eu cette intuition, il faut lui reconnaître ça, il avait eu cette intuition qu'effectivement, il y avait peut-être un problème de mesure. C'est pas forcément le mot croissance, c'est pas forcément un gros mot, et le mot décroissance, un autre gros mot. C'est peut-être qu'on mesure pas la bonne chose et qu'on ne prend pas de la bonne manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi après la crise de 29 qu'on a changé la comptabilité privée. Donc on a, en particulier parce que Roosevelt a créé la SEC, donc l'organe de régulation des marchés, et la SEC a dit il faudrait que les gens comptent de la même manière. Mmh. Et donc a forcé à ce qu'on a appelé, pardonnez-moi d'être jargonnant, les GAAP, les Globally Accepted Accounting Principles, pour dire on va tous compter plus ou moins de la même manière. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la faillite de 29 a abouti à déterminer le thermomètre public et le thermomètre privé, qui sont comment mesure-t-on le profit d'entreprise et comment mesure-t-on la croissance du pays. Et moi, je crois que quand on prend la période de la crise financière 2008-2010 jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui et probablement encore quelques années, c'est peut-être le moment de se poser la double question de est-ce qu'il n'est pas temps de changer de thermomètre public et de changer de thermomètre privé. Donc, ce n'est pas de rentrer dans un débat sur la croissance, pas la croissance, etc. C'est de savoir, mais au fond, que veut-on mesurer? Comment veut-on le mesurer? Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors moi, il y a un mot que je préfère de beaucoup au mot croissance, c'est le mot développement. La croissance, si on veut être un peu provocateur, c'est le cancer. D'une certaine manière, ça prolifère, ça métastase, et puis ça croît en toutes les directions. Et c'est l'exemple bien connu. Si je prends ma voiture et que je fais 100 fois le tour du périphérique, c'est très très bon pour le PNB. Si j'ai un accident de voiture, c'est encore meilleur. C'est absurde, on voit bien, enfin, c'est un exemple provocateur.
Non, mais...
Donc la croissance en soi, c'est une force qui va, qui ne sait pas où elle va et dont on ne sait pas ce qu'elle produit. En revanche, le mot développement, qui est un mot magnifique, alors là j'emprunte ça, c'est une phrase que j'avais trouvée il y a très 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 longtemps, je la cite de mémoire, elle n'est pas complètement exacte, c'était dans une conclusion de l'Assemblée des Églises protestantes dans les années 80, et qui disait le développement, ça n'est pas la croissance, ça n'est pas le cancer, c'est la stratégie de l'embryon. Et l'embryon, c'est bien, je mets ce qu'il faut, là où il faut, au moment où il faut, dans l'ordre qu'il faut. Et donc, il y a un sens. On crée quelque chose. Et donc moi, l'idée qu'on réfléchisse à comment mesure-t-on notre développement, et au lieu d'opposer stupidement une croissance ou une décroissance du PNB, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Et finalement, répond à cette question autour de laquelle on tourne, qui est, mais finalement, dans quel monde veut-on vivre? Avec quelle économie? Et si on se met d'accord sur ces termes-là, avec quelles finances? Alors la réalité, c'est qu'on s'est mis d'accord. On a un peu oublié. Mais en 2015, il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, alors les Français s'en souviennent parce que c'est les accords de Paris sur le climat, mais il y a eu avant les accords de New York sur le développement durable, il y avait même eu avant en Éthiopie et à Addis Abeba les accords sur le financement du développement. Et là, tout le monde a signé. Alors les Américains sont sortis du climat, mais de manière étonnante, le climat reste dans les objectifs du développement durable dont les Américains sont toujours partis. Donc en réalité, on a toujours cette feuille de route. Cette feuille de route, ce vivre ensemble, on l'a définie. Alors évidemment, ça paraît très loin, les assemblées à New York, Paris, les chefs d'État, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont
signé. On ne voit pas concrètement, en fait.
On ne voit pas concrètement. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas réinventer cette feuille de route. Elle est pas mal, elle existe, et de toute façon, on est incapable aujourd'hui, dans l'état de désunion de la planète, d'en refaire une autre. Donc travaillons sur cette feuille de route, et soyons sérieux. Si on est d'accord, et on a signé, François Hollande a signé, d'autres ont signé, comment mettons ça en application, et est-ce que ça peut marcher avec le système néolibéral ou conservateur dont on parlait tout à l'heure. Mon intuition, c'est que non, et que donc, encore une fois, il faut transformer les prémices et travailler sur ces prémices.
Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup, et donc j'avais rencontré François Hollande pour mon livre, entre autres, d'intégrer le gaz à effet de serre dans le bilan des entreprises. Ça peut être une des manières de changer le calcul. Parce que du coup, on parle beaucoup de croissance ou de développement, mais le développement, comme n'importe quel être vivant, que ce soit un arbre ou un être humain, au bout d'un moment, il arrête de croître. Et là, c'est évidemment pas le cas. C'est-à-dire qu'on est dans une croissance un peu comme si c'était infini, que ça n'a aucun sens. Comment on s'y prend? Alors, vous pouvez peut-être parler du lab, expliquer ce que vous faites au sein de ce groupe de réflexion, parce que c'est aussi intéressant peut-être comment vous y êtes arrivé et qu'est-ce que vous y faites et comment on fait pour changer les choses.
Alors,
le
lab, c'est le One Planet Lab. L'extrême origine, c'est quand Donald Trump a signalé son intention de sortir des accords de Paris, le président français Emmanuel Macron à l'époque a fait une déclaration en disant « mec, our planet great again », et a dit derrière « je vais convoquer un One Planet Summit ». L'idée qu'il prenait le slogan One Planet, derrière lequel il mettait la préoccupation du climat, de la biodiversité, des océans et de la finance. Il avait cette vision holistique des choses. À partir de là, il y a eu un événement à Paris en décembre 2017, et derrière ça, on s'est dit, bah, au-delà de faire des sommets, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un groupe d'acteurs? Donc il y a une partie d'académiques et une partie de praticiens. Je me classe plutôt dans les praticiens, qui s'appelle le One Planet Lab et qui travaille sur un certain nombre d'options, de choses qu'on peut faire, avec notamment l'intuition qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Il n'y a personne qui va... Ce qui n'était pas le cas. D'une certaine manière, l'élection de Reagan et Thatcher, c'était les maîtres du monde de l'époque, idéologiquement et, je dirais même, économiquement. On peut argumenter que François Mitterrand a essayé de résister en France quelques mois, mais après, il s'est rallié et on a suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas de leadership intellectuel sur la planète. Il n'y a pas de maître du monde qui va décider pour nous qu'on va dans cette direction. C'est compliqué. Bon, à la limite, on n'est pas d'accord, mais on préfère qu'on nous impose un truc en disant « j'aime pas, mais je vais le faire quand même ». Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, on est à ce moment un peu particulier où, en l'absence de maître du monde, et même pire que ça, il y a même plusieurs candidats à la maîtrise du monde, on ne sait pas très bien, comment est-ce qu'on peut créer une dynamique positive ? Et c'est une des intuitions très fortes du One Planet Lab, qui était celle de Paul Polman, l'ancien patron d'Unilever, de Brune Poirson, qui avait piloté cet effort quand elle était au gouvernement, de dire, ben voilà, on va créer, c'est la stratégie du tipping point, ce que les Anglo-Saxons appellent le tipping point, on va, dans un secteur donné, essayer de réunir un certain nombre de gens qui représentent une masse critique d'acteurs d'un secteur et qui vont dire, par exemple, on prend le transport maritime, on va réunir les premiers qui vont dire, bah, on prend l'engagement de ne pas faire passer nos bateaux par la route nord au-dessus de la Russie, parce que ça détruit des écosystèmes, etc. Et on fait le pari que s'il y a 20, 30 ou 40% des gens qui disent on ne le fait pas, bah, la pression sur les autres est telle qu'ils vont se rallier. Mmh. Et que si on arrive à faire ça plusieurs fois, bah, les pouvoirs publics qui étaient plutôt à la remorque vont dire, bah, oui, c'est très bien, et donc on valide l'interdiction de passer par le nord. Donc d'avoir de réfléchir à, en l'absence de maître du monde, comment faire. Donc c'est ça l'intuition du lab, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'est pas complètement démunis. Il ne faut pas dire bah, il n'y a pas de maître du monde, ils n'ont qu'à faire ça et moi je ne peux rien faire. Si, on peut toujours faire quelque chose.
C'est surtout qu'il y a une, enfin, et moi y compris d'ailleurs, hein, une défiance très forte envers la finance, le monde de la finance, oui, et l'entreprise, parce qu'il y a vraiment, et on en parlait, et je pense que c'est peut-être le moment de rentrer dans le détail, mais de cette dualité extrêmement forte entre le court-termisme de la finance et les enjeux long terme que sont le développement durable, enfin pas le développement durable d'ailleurs, l'écologie pardon, et puis le social, clairement.
Ben on a deux problèmes pratiques à traiter et il nous manque un ingrédient. Les deux problèmes pratiques, c'est des problèmes très classiques en économie, c'est ce qu'on appelle the tragedy of the commons, donc le problème des biens publics, qui s'en occupe, et la tragédie des horizons. Alors la tragédie des biens publics, c'est de dire ben, en fait qui est responsable du climat. On a tous besoin que le climat soit sous contrôle, et en même temps, on est quand même content que l'effort soit fait par le voisin plutôt que par nous. C'est d'une banalité totale, mais c'est bien le cœur de la difficulté qu'on a face à ces questions-là. Mais c'est vrai pour la biodiversité, et c'est vrai pour toute une série de problématiques qui sont des problématiques par construction mondiale, et qui ont besoin de consensus mondial, qui est justement une des denrées rares aujourd'hui. La tragédie des horizons, elle avait été mise en avant par Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est maintenant l'envoyé spécial des Nations Unies sur le climat, et qui disait, ben finalement, dans le monde d'aujourd'hui, alors je complète un peu ce qu'il disait, mais peu importe, finalement, le trader, lui, il se préoccupe de la prochaine milliseconde. Mmh. Le directeur financier, j'étais directeur financier, je suis très focalisé sur mon arrêté trimestriel ou semestriel. Bon, ok, je suis pas idiot, je pense un peu plus loin, mais fondamentalement, je pense à mon arrêté trimestriel, avec en plus un biais qui est terrifiant, c'est que les normes comptables dans lesquelles on vit aujourd'hui, elles sont basées sur le principe de ce qu'on appelle le mark-to-market, c'est-à-dire la valeur de marché. C'est le paradigme dans lequel on s'est précipité dans les années 70, mentalement, quand Nixon a choisi de suspendre la convertibilité en or du dollar, on avait un système organisé où il y avait l'or, le dollar, les monnaies qui s'organisaient autour, et tout ça était organisé, organique. Et brusquement, on a dit, maintenant c'est fini. Et donc maintenant, si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut X euros. Et je dis, ok, un euro, ça vaut combien ? Ça vaut Y dollars. Donc on est rentré dans un univers où mentalement, on est un univers de marché. Et ça s'est effectivement diffusé à la comptabilité, où aujourd'hui, en comptabilité, vous arrêtez la valeur de votre bilan tous les trimestres en disant, si je liquide mon entreprise, qu'est-ce que le marché me paye ? Alors, c'est très cohérent avec tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, comment voulez-vous, quand vous liquidez mentalement votre entreprise tous les trimestres, vous projeter à 20 ans ? Je dis, c'est pas de la psychologie, c'est aussi simple que ça. Donc le directeur financier va se projeter à 3 mois ou 6 mois. Le patron de l'entreprise, bah, il a en gros le plan stratégique 2, 3, 4 ans. Le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque Centrale ou le chef d'État, il va voir 4, 5 ans. Mais dans le monde d'aujourd'hui, personne n'est en charge au-delà de ces quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour le climat ? Tout le monde a intérêt à dire, ça durera peut-être un peu plus que ce qu'on me dit, et en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, on a ces deux sujets, tragédie des horizons, tragédie des biens publics, et en face, on a un problème de confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, personne ne va faire le premier pas. Et c'est là que la question que vous posez est la bonne. L'ingrédient qui se dissipe à vue d'œil depuis un certain nombre d'années, c'est la confiance. Confiance des individus les uns envers les autres, comme on dit toujours, du peuple envers les élites, des gens vis-à-vis des institutions, de l'économie réelle vis-à-vis de la finance, enfin, des problèmes de confiance partout, de suspicion généralisée, etc., qui rendent toute coopération infiniment désagréable, infiniment longue, pénible et beaucoup moins efficace qu'elle ne serait naturellement. Et si on veut être provocateur, si tous les matins, quand vous achetez votre baguette, vous mettez en doute le fait que le boulanger fait un bon pain, là, ça rend la vie compliquée. Alors qu'en fait, vous le faites, vous dites, bah, c'est bien, on fait un raccourci, je prends ta baguette, je sais que tu le fais bien, qu'il y a quelqu'un qui vérifie, et donc... Et ça, on a perdu ça dans beaucoup de sphères de l'économie. Et on l'a perdu, et moi j'aime bien citer cet exemple en France, en 2008, peu avant la faillite de Lehman Brothers, donc à l'été 2008, le débat, vous m'en souvenez peut-être pas, mais le débat économique de l'été 2008, c'était le RSA, la création du RSA par Martin Hirsch. Et un des débats, c'était de savoir, est-ce qu'on fait un RSA national, est-ce qu'on fait un pilote dans une région, est-ce qu'on fait telle ou telle population, enfin, en gros, c'était on teste et on va tester, on fait un prototype et comment on fait, est-ce que ça va coûter 500 millions d'euros, 600 millions d'euros, 800 millions d'euros. Bon, on discute tout l'été de ça. Arrive la faillite de Lehman Brothers, 15 septembre 2008. Le plan français, qui était un plan pour le financement de l'économie, mais qui était quand même un plan de soutien au secteur financier. Nicolas Sarkozy va, le fameux discours de Toulon, puis le plan annoncé début octobre, il dit on va mobiliser plus de 400 milliards d'euros. On retrouve les mêmes chiffres aujourd'hui, d'ailleurs probablement avec un zéro de plus. On est passé dans des ordres de grandeur qui ne sont plus les mêmes. Et donc, on va mobiliser 400 milliards d'euros pour notre économie et notre finance. Et moi, à l'époque, j'étais au Crédit Agricole, j'allais très souvent rencontrer les clients, les sociétés, etc. Et les gens me disent, attendez, on a passé 2 mois et on n'a pas trouvé 800 millions pour les plus pauvres. Et là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques. En gros, pour les riches et les puissants.
C'est ça.
Et alors, moi, là-dedans. Donc, c'est moi, contribuable, qui vais soutenir. Et un, je pense qu'il fallait le faire. Deux, on ne l'a pas très bien expliqué. Et quand je raconte cette histoire, et je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait au Brésil, tous les pays ont vécu une histoire un peu similaire. Il fallait sauver le système. Le problème, c'est que le système, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce que c'était et pourquoi. Et donc là, on a une espèce de déchirure. Non pas que la finance était extrêmement populaire à l'époque, mais alors là, vous avez... Et donc, on est toujours dans ce contexte aujourd'hui. Et c'est pour ça que la finance est une responsabilité particulière à se réinventer. Donc pour l'instant, et c'est pour ça que le livre que j'ai écrit s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement ?» parce qu'on dit qu'on fait des choses. Et je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais je pense qu'on ne va pas assez loin et que ce n'est pas assez fort comme mouvement. Alors on va parler d'investissement socialement responsable, on va parler de ESG, donc de focalisation sur l'environnement, les problèmes sociaux, la gouvernance, on va parler d'impact. Tout ça est parfaitement exact, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on va assez loin? Et est-ce qu'il n'est pas temps de sortir du paradigme friedmanien? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de positionner la finance non pas sur deux pieds, comme on a aujourd'hui, risque-rendement, ça c'est vraiment l'alpha et l'oméga de l'industrie financière au XXe siècle, c'est déjà un progrès. Au XIXe siècle, il n'y avait que le rendement. Vous aviez une mine, vous creusiez, et puis quand la mine était épuisée, vous alliez creuser plus loin, et puis voilà. Et comme je dis souvent, quand vous étiez aux États-Unis, vous alliez vers la Californie, vous étiez en Russie, vous alliez vers la Sibérie, et vous étiez européen, vous colonisiez le monde. Mais il n'y a pas de limite. Au XXe siècle, on a compris que c'était plus compliqué que ça, on a créé le couple risque-rendement. Je pense qu'au XXIe siècle, il faut qu'on trouve au cœur même des mécanismes financiers, de l'investissement, de la valorisation, risque, rendement, impact, ou risque, rendement, durabilité, qu'on ajoute cette dimension. On est dans un univers fini, point numéro un, et deuxièmement, on est dans un univers qui doit être concret. On n'est pas, encore une fois, je disais pour Excel tout à l'heure, le capitaliste, ce n'est pas un papier sur tableur Excel. C'est enraciné dans cette planète et pour nous, les habitants de cette planète. Et c'est là qu'il faut faire cette bascule de Friedman. Là, j'emprunte la formule à un autre économiste que j'estime beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Colin Meyer, qui était l'ancien doyen de Business School à Oxford, qui dit, au fond, il faut qu'on passe de l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit, à l'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables au problème de notre planète et de ses habitants. Donc, ce n'est pas dire que le profit, c'est mal. On ne va pas se raconter d'histoire. Là, on bascule dans autre chose. Mais c'est un profit qui est un moyen en vue d'une fin et pas une fin en soi. Et à partir de ce moment, il retrouve sa grandeur, sa noblesse, et il retrouve une perspective de long terme. Parce que s'il est durable, il s'inscrit dans la durée. Si vous avez juste le profit, en fait, c'est take the money and run. Je fais le plus de monnaie, le plus d'argent le plus vite possible, et je réponds au cahier des charges. Si on s'inscrit dans une logique de long terme, ça change l'équation et ça change toute la mécanique.
Mais surtout, la remarque qu'on fait régulièrement, c'est de dire, autant les patrons de PME, c'est des entrepreneurs, autant les patrons des grosses structures, c'est des gestionnaires. Donc en fait, ils sont arrivés à un certain âge. Eux, ils essayent de maintenir la boîte Enfin, c'est l'image qu'on a de l'extérieur, en tout cas. Et vous, vous croisez pas mal de grands patrons. Donc, ils essayent de maintenir la boîte comme ils peuvent. Et surtout, ils prennent pas trop de risques jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite et qu'ils touchent leurs dividendes, etc. Et donc, du coup, on voit que ce modèle, finalement, enfin, en tout cas, on voit que, enfin, nous, en tant que consommateurs, on voit que ça bouge pas assez vite. Ou en tout cas, que ça, voire, on a l'impression que ça bouge pas du tout, d'ailleurs. Comment on fait pour basculer de l'autre côté?
Il n'a pas de raison de bouger. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de raison de bouger. Aujourd'hui, on vit dans un capitalisme actionnarial. Et donc, dans le capitalisme actionnarial, le dirigeant d'une grande entreprise cotée, il y a des entreprises, grandes entreprises familiales, donc là, c'est un peu différent, mais d'une grande entreprise cotée, c'est ce que les économistes appellent la théorie de l'agence. On confie à un dirigeant le soin de gérer une entreprise. Et donc, on met un certain nombre de garde-fous et on lui dit, c'est comme quand vous avez un babysitter, vous lui dites, attendez, vous nourrissez le bébé à telle heure, telle heure, telle heure, vous allez le coucher, etc. Et bien, on lui dit, la feuille de route, c'est « The social purpose of business is to make profit ». Donc, ta feuille de route, c'est de faire du profit pour moi, actionnaire. Mais le gars, sauf s'il a des convictions, qu'il en convainc ses actionnaires, etc., il n'a pas de raison. Alors après, et ça c'est probablement le coup de poing que j'ai pris dans le ventre, je le raconte dans le livre, le plus chaud de ma vie. On avait organisé avec l'Institut Montaigne en 2008 une conférence, c'était avant même la faillite de Lehman Brothers, au début de la crise du subprime, où on avait invité, je me souviens, Jean Tirole, devenu depuis prix Nobel, et Paul Volcker. Alors Paul Volcker, les gens ne s'en souviennent pas forcément, c'était le gouverneur de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, qui avait terrassé l'inflation. Les années 70, le mal économique, c'était l'inflation. Et Paul Volcker avait cassé l'inflation, qui avait d'ailleurs après été suivie par la France et d'autres pays. Et donc l'inflation, on n'en parle plus aujourd'hui. On n'arrive même plus à la retrouver. Enfin, on pousse. Alors, donc Paul Volcker, c'est quand même une grande figure, grand serviteur de l'État américain, qui avait été repris et qui a repris du service sous Obama à 90 ans, qui est décédé il y a un an maintenant. Et on le questionne dans cette discussion avec l'Institut Montaigne. Quelqu'un lui dit, mais monsieur Volcker, je vous trouve très dur. Finalement, on est dans un jeu et on obéit aux règles du jeu. Donc, voilà, pourquoi vous nous tapez dessus? Et Paul Volcker avait dit, en disant, mais je vais vous répondre ce que j'ai répondu à mon petit-fils qui travaille à Wall Street. Je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous, les financiers, vous êtes particulièrement intelligents, particulièrement diplômés, particulièrement actifs. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir ce que vous faites. Mmh. Et donc, c'est votre job de dire, attendez, ça, je ne veux pas, etc. Donc, on est dans cette tension. On a un jeu, on a des règles, etc. On les suit. La question, c'est est-ce qu'on peut dire ça ne va pas? Et je pense qu'on est à ce moment de tension. Un certain nombre de dirigeants ont dit, bah, dans le cadre des règles actuelles, je vais quand même pousser les limites. Donc, il y a des dirigeants qui ont commencé à pousser. Et on a cette phase un peu d'entre-deux où on a du mal à abandonner le système d'avant et on n'a pas trouvé le système d'après.
Mais surtout, j'imagine que pour les patrons, mais aussi au niveau des pays, il y a vraiment cette idée de pourquoi ça devrait commencer par moi? Si je le fais, ça va forcément dire que je ne vais plus être rentable. Donc du coup, je vais me faire manger par la concurrence qui, elle, va toujours pratiquer ces méthodes, entre guillemets, anciennes. Donc comment on fait passer d'un paradigme à un autre, en fait?
Je pense qu'on est à un moment où les choses peuvent se passer un peu différemment. C'est vrai que dans la mentalité collective et même individuelle, je suis passé par là aussi, on se dit, si j'essaie de faire les choses mieux, ça va me coûter plus cher. Et donc ça, j'y mets un peu de mon argent. Combien est-ce que je suis prêt à contribuer pour faire mieux? Donc, c'est un centre de coûts, etc. Et bon, en général, on essaie d'optimiser le petit bidule qu'on fait. Et on se dit, vous voyez, j'ai fait ça, on se donne bonne conscience, on donne de l'argent à la quête. On dit, voilà, je me sens mieux après. Et à la limite, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est un début. C'est un début. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Enfin, on ne peut pas juste se contenter de faire un petit peu. On ne peut pas se contenter de dire, c'est tout le débat sur la responsabilité sociale des entreprises versus la raison d'être. Et la raison d'être, est-ce que c'est suffisant? Donc comment est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Comment est-ce qu'on entraîne l'entreprise? Et surtout, comment ça devient non plus un geste marginal pour faire mieux, mais comment est-ce qu'on finalement on va répondre aux attentes? Et c'est pour moi, c'est un des points les plus importants de mon livre. Je travaille par exemple avec une entreprise qui n'est pas très connue dans son acronyme, qui s'appelle JAB. JAB, c'est une holding qui contrôle un certain nombre d'entreprises de grande consommation, qui notamment la plupart des marques de café qui ne sont pas Nestlé, c'est JAB, prête à manger pour ceux qui travaillent à la Défense, par exemple, savent ce que c'est, etc. Et qui fait donc notamment du café, de la restauration et d'autres choses. Et finalement, ils ont basculé, comme un certain nombre, d'un raisonnement où bah, j'essaie d'arbitrer en faisant un peu mieux, etc. Un raisonnement où, mais si je fais du café ou si je fais de la restauration aujourd'hui et que je ne traite pas de manière visible, crédible et transparente la question de mon approvisionnement équitable, du gaspillage alimentaire et de mes emballages, ça devient un sujet stratégique. Et c'est là qu'il faut prendre l'économie de marché d'une certaine manière à son propre piège. Dans l'économie de marché, il y a marché. Et le marché, c'est les consommateurs, les investisseurs, les collaborateurs. Et bien si les collaborateurs, les investisseurs, ça c'est vous et moi, on est tous consommateurs, investisseurs, collaborateurs. Si on dit de manière suffisamment haut et claire, je ne veux pas investir dans cette entreprise, je ne veux pas travailler avec cette entreprise, je ne veux pas acheter les produits de cette parce qu'elle se comporte mal, ben, le marché fonctionne. Le marché, ben, il dit, ah oui, très bien, vous ne voulez pas, ben, on va changer. Et donc c'est plus un arbitrage financier, ça devient une décision stratégique. Et là, on change d'univers. Et c'est là qu'on a une responsabilité forte. Et c'est là que c'est extraordinairement compliqué, parce que vous comme moi, on est totalement schizophrène. On aurait envie de vivre dans le meilleur des mondes, et en même temps, quand on est confronté à un achat, bah, on se dit, ah, bah, je vais quand même prendre le moins cher. Moi, j'ai eu cette discussion avec mes enfants. Et c'est pas une discussion facile. Et c'est d'ailleurs, je les ai provoqués. J'attendais pas qu'ils me donnent une réponse simple. Au début de la crise, on a appris qu'un certain nombre de grandes enseignes textiles avaient rompu unilatéralement leurs approvisionnements au Bangladesh. Sans verser de compensation, rien du tout. Sur le thème crise majeure, cas de force majeure, on arrête tout, merci. Et donc je discutais avec les enfants en disant, bon, ok, alors, est-ce que vous êtes toujours prêts à acheter vos t-shirts à 1 euro, ayant entendu ça ? Alors, c'était pas très sympa de ma part de poser la question, mais cette question, on doit tous se la poser. Donc on peut pas à la fois blâmer le système, et en même temps, quand on est confronté à des choix individuels, pas les faire forcément en conséquence. Mais le point que je voulais faire, c'est qu'on est dans un système où le marché peut jouer son jeu. Il ne faut pas tout attendre de la réglementation. La réglementation, c'est une partie de l'équation, mais il faut que le marché joue le jeu.
Mais il y a aussi, et là je vais être un peu provocateur, mais des entreprises dont le business en tant que tel est problématique. Je pense, moi je peux faire du name dropping, c'est pas très grave, mais je pense à Nespresso, où ils font énormément de travail sur le recyclage des capsules, mais fondamentalement, personne n'a besoin de capsules, en fait. Donc, en fait, ils ont créé un problème qu'ils essaient de résoudre à la marge, mais fondamentalement, le café, en fait, personne n'a besoin de le boire en capsule. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est de ces entreprises ? Et là, non, je prends l'exemple de Nespresso, mais en fait, il y en a pas mal.
On prend l'exemple des gens qui vendent de l'eau en bouteille.
Ils vendent de l'eau en bouteille dans des pays où il n'y en a pas.
Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas non plus, et je pense que ce serait pour le coup désastreux si on ordonnait aux gens de vivre de telle ou telle manière, etc. Donc, il faut aussi respecter une certaine diversité des choses. En revanche, il faut effectivement travailler sur le caractère recyclable des emballages. On peut accompagner ce mouvement. Alors après, l'étape suivante, mais encore une fois, ça prend du temps. On est dans un monde où c'est immédiat. Et alors, ça crée des fausses attentes. Vous allez à Davos, il y a un gars qui dit « Je prends un grand engagement, d'ici l'année prochaine, je fais ça. » Tout le monde dit « Ah, bravo !» Puis après, on oublie de vérifier, puis après, on ne sait plus où on est. Il faut accepter que les gens, quand les entreprises disent « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je dis « Soyez transparents, reconnaissez que ça prend du temps. Vous n'allez pas, en 8 jours, traiter la question de vos emballages, etc. Dresser un chemin. » Rendez compte de votre chemin, etc. Je pense que c'est le chemin qui est important.
Mais ça implique avoir une vision long terme. Et comme vous disiez tout à l'heure, ils ont du mal à avoir cette vision long terme.
Alors, ce qui se substitue à la vision long terme, c'est cette pression du marché qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, je prenais l'exemple transport maritime, mais il y en a d'autres, disent, pour des raisons stratégiques, il faut que je change de comportement. Mais les mêmes viennent vous dire, et elles ont raison, elles disent, mais attendez, moi je ne vais pas être tout seul à changer de comportement. Donc si je n'arrive pas à emporter l'adhésion de tout le monde, j'ai un problème. Donc c'est là qu'il faut que la réglementation dise, écoutez, si tout le monde est d'accord, ou si on a 50% des gens qui sont d'accord, écoutez, les 50% suivants, vous suivez.
Et alors c'est quoi le rôle des patrons ? Alors je pense à Emmanuel Faber, mais qui sont un peu visionnaires et qui essayent d'aller... Danone, ça reste... Donc Emmanuel Faber, le patron de Danone, qui est une entreprise actionnariale, si je ne me trompe pas trop.
Oui, bien sûr, c'est une entreprise cotée.
Qui lui essaye d'aller dans ce sens-là. Alors évidemment, c'est une de ces boîtes qui vendent l'eau à des pays qui en ont déjà.
Mais qui a annoncé qu'il avait trouvé les moyens d'avoir des emballages dont il a changé la composition, recyclable, etc.
On va voir. Mais il les transporte quand même par bateau dans des pays où il y a déjà l'eau. Donc il y a quand même ce truc. Bon, après, c'est de la transition. Mais en tout cas, de manière très positive, il essaye quand même de faire changer les normes. C'est quoi le rôle de ces patrons qui sont un peu visionnaires, entre guillemets?
Je pense qu'il en faut, parce que ça peut être des patrons d'entreprises privées, des patrons d'institutions internationales, des influenceurs, enfin, ça, des gens qui éclairent un peu le chemin. C'est pas eux qui décident pour le reste, mais ils ouvrent, ils montrent que c'est possible, et donc bah, d'une certaine manière, ils disent, bah, allez, le chemin est là, on peut y aller. Alors après, c'est vrai qu'ils sont parfois irritants, les gens disent, ah, il était le donneur de leçons, etc. Mais moi, il se trouve que j'ai travaillé avec Emmanuel Faber, qui a soutenu le lancement de mon entreprise. J'ai travaillé avec lui dans le One Planet Lab, dont on parlait tout à l'heure, sur l'initiative qu'il a lancée avec l'OCDE, qui s'appelle Business for Inclusive Growth, donc le business pour une croissance inclusive. Donc, un certain nombre de choses. Est-ce qu'Emmanuel Faber est parfait? Non. Est-ce qu'il fait bouger les choses? Oui. Et moi, c'est ce qui me plaît. S'il y a des saints, c'est formidable. Mais voilà. Moi, je suis casse-tête, on est tous appelés à la sainteté, mais enfin, c'est compliqué. Donc, voilà. Et quand je regarde ce qui s'est passé dans cette crise, bah, il n'a pas eu de chance. Il avait annoncé juste avant, il a présenté ses résultats annuels fin février, dans lequel il a pour la première fois distingué son revenu par action du revenu par action, prenant en compte un prix du carbone et avec des perspectives d'évolution. En disant, bah, en 2019, j'ai atteint le pic et maintenant, mon revenu décarboné va croître plus vite. Donc, j'ai muté l'entreprise. Évidemment, comme le Covid est arrivé deux jours plus tard, on n'a pas beaucoup parlé. Mais c'était déjà intéressant. Enfin, il a dit, voilà, sur mon instrument de mesure, je vends ça. Ensuite, et c'est pas le seul, mais il a fait ça, il a dit, voilà, dans cette crise, ce qui est difficile, c'est tout l'écosystème autour de Danone. Et donc, je crée un fonds, je crois, de 300 millions d'euros qui va me permettre de prêter ou d'investir chez mes fournisseurs, chez certains de mes clients, pour être sûr que le système ne s'effondre pas. Et d'autres ont suivi, enfin Unilever et quelques autres. Et puis troisièmement, il a fait voter en Assemblée Générale le fait d'être une entreprise à mission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a défini quelle était sa mission et qu'il y a un groupe extérieur, un conseil extérieur qui n'a aucune pression de l'entreprise, qui va chaque année rendre compte de la trajectoire de Danone par rapport à la mission qu'elle s'est imposée. Donc est-ce que c'est parfait? Évidemment que non. Mais en même temps, ça va quand même dans la bonne direction. Et puis, c'est ouvert. Après, si les gens ne sont pas d'accord, on peut critiquer, on va dire, mais t'as fait ça, mais t'aurais pu faire ça, etc. Donc, plus on aura de gens qui iront dans cette direction, plus on va voir que c'est possible.
Et qu'est-ce qu'on peut penser d'entreprises comme Patagonia, qui est l'exemple un peu classique que tout le monde prend?
Non, mais c'est un très bel exemple. Ouais. C'est un très bel exemple. Mais heureusement qu'il y en a des entreprises comme ça. Ma crainte, et c'est vraiment le cœur de ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière quelques individus, quelques entreprises, etc. Pour une raison simple, c'est que tout ça repose sur la bonne volonté du patron de Patagonia, de Danone, de Unilever ou d'autres. Hein. Enfin, la liste est beaucoup plus longue qu'on ne pourrait le croire, mais il y a des millions d'entreprises sur Terre, on va en citer des dizaines, donc on a un petit sujet d'ordre de grandeur. Donc c'est à la fois très bien qu'on ait ces pionniers, mais on a tendance à se cacher, on dit « regardez, si, il se passe des choses », etc. Mais la bonne volonté, elle est fragile. C'est-à-dire que si quelqu'un, si demain le patron de Patagonia ou de Danone, etc., change, alors il est quand même encadré par le choix d'être une entreprise à mission, etc. Il y a quand même des règles qui s'imposent à lui, mais à la limite, les règles, elles peuvent être changées. Et puis par ailleurs, donc ça c'est la fragilité, et puis par ailleurs, ça ouvre la porte à un certain nombre de petits malins qui font ce qu'on appelle du greenwashing, ou maintenant du rainbow washing, le rainbow étant les couleurs des objectifs de développement durable, les 17 couleurs. Et donc les gens disent, bah, regardez, moi je suis comme les autres, je fais mon truc, etc. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est pas suffisant de se cacher derrière ce mouvement, il faut pas se raconter l'histoire, il se passe quelque chose. Mais c'est pas, on n'a pas atteint un point de non-retour, c'est pas irréversible. Et donc pour que ça se diffuse, il faut qu'on passe à l'étape suivante, qui est de transformer les règles, de transformer encore une fois les modes de, aussi prosaïquement que les normes comptables, les normes de rémunération, le rating, etc. Tout ce dont on parlait tout à l'heure.
Et comme vous avez été directeur général de la Banque mondiale, j'avais quand même aussi une question sur les pays émergents. Donc il y a des personnes qui disent que finalement la problématique écologique, c'est pas tant l'Europe ou les États-Unis, mais principalement l'Afrique ou l'Inde ou la Chine. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces thèses-là?
C'est vrai et c'est faux. C'est techniquement vrai. Enfin, l'Europe, c'est moins de 10% des émissions de carbone de la planète. Les États-Unis, c'est un peu différent, c'est plus gros. À aujourd'hui, c'est pas les pays développés qui sont les plus émetteurs. Mais c'est eux qui donnent le « là ». En matière d'attente mondiale. Et c'est vrai que vous êtes en Inde, en Chine, etc., vous avez tendance à vous rapprocher du modèle américain plutôt qu'à vous en éloigner, ou du modèle français ou de tout autre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même, même si aujourd'hui on a fait des progrès, on a quand même bien profité du système avant que les pays émergents émergent. Donc on a quand même une petite responsabilité. Ce qui a d'ailleurs été reconnu dans l'idée que les pays avancés devaient financièrement aider les pays émergents en développement à passer le cap. Donc ça, c'est exact. Donc le fait, quand je dis oui et non, oui, c'est les enjeux sont là. C'est dans ces pays qu'on va avoir des enjeux de climat, de biodiversité, de protection des océans, de plastique, etc. C'est parfaitement exact. C'est parfaitement exact. C'est probablement plus difficile aussi de traiter dans ces pays. Moi, je suis pas très inquiet. La France, dans 50 ans, on aura réglé notre problème. On va y arriver. Ça va être beaucoup plus difficile dans un certain nombre de pays émergents. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que la réalité, comme je disais au début, c'est un bien commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes certainement trop jeune pour vous en souvenir, mais quand il y a eu le nuage de Tchernobyl, les gens avaient dit c'est extraordinaire, le nuage est arrêté aux frontières de la France. Mmh, le changement climatique ne s'arrête pas à nos frontières. Donc, il faut qu'on soit, comme toutes les questions dont on parle, c'est une problématique qui doit être mondiale. On ne peut pas résoudre, on ne peut pas raisonner derrière ces murs. Avec le Covid, on parle de frontières, de souveraineté, machin, mais à un moment, ça ne suffit pas, ce n'est pas possible. Enfin,
et si je reste sur le social, pardon, parce que j'ai plein de questions qui me viennent, donc du coup j'en profite, et qu'on reste en France, pour le coup, il y a beaucoup de personnes, dont certaines qui se sont présentées à l'élection présidentielle la dernière fois, qui parlent de revenu universel. Revenu universel pour égaliser, et puis après c'est toutes les théories sur la différenciation entre les plus riches et les plus pauvres qui s'étend beaucoup plus, bon vous connaissez ça bien mieux que moi. Comment on fait pour retrouver de la cohésion sociale aussi, simplement au niveau national?
Alors pour moi c'est le sujet, il y a deux sujets majeurs que le modèle actuel ne peut pas traiter naturellement. Le premier, on en a parlé, c'est une question de climat, d'environnement. Non pas seulement climat d'ailleurs, mais tout ce qui a trait à notre environnement, océan, biodiversité, enfin tout ce qu'on traite avec le One Planet Lab. Et puis il y a la question, on appelait ça au 19e siècle la question sociale, elle a changé de forme, mais elle est toujours présente, la question des inégalités. Et on se retrouve aujourd'hui à un moment de notre histoire où les inégalités étaient déjà un sujet avant le Covid, et où le Covid accélère ces inégalités. Accélère de deux manières. D'abord, ceux qui vont avoir de plus en plus. Et je lisais, alors c'était coïncident, l'interview d'Alain Minc dans Les Échos de ce matin, qui reprenait ce que je dis dans mon livre. Quand vous avez maintenant la perspective que les taux restent très bas très longtemps, quand vous avez un appartement, quand vous avez une entreprise, quand vous avez des actions, en gros, quand vous avez un actif, cet actif, vous allez le valoriser avec un taux d'intérêt très bas. Donc sa valeur, naturellement, augmente. Vous voyez, c'est un calcul financier de base. Donc ceux qui vont être de plus en plus avec leurs actifs. Deuxième bénéfice, contre les actifs que vous avez déjà, vous allez pouvoir emprunter à zéro. Le principe, on ne prête qu'aux riches. Donc vous êtes déjà riche, donc je vais pouvoir vous prêter. Donc je vais pouvoir vous prêter à zéro. Donc vous avez déjà un premier milliard, vous pouvez emprunter un deuxième milliard à zéro. Et avec ce deuxième milliard, vous allez pouvoir investir dans les classes d'actifs qui vous rapportent le plus. Le private equity, par exemple. Et donc, vous êtes dans une spirale ascendante. Et je ne pensais pas avoir raison aussi vite. J'avais dit, sous forme de plaisanterie, à une conférence l'année dernière, aujourd'hui, on a des gens qui valent 100 milliards. D'ici 2 ou 3 ans, on aura des gens qui vaudront 200 milliards. Et d'ici 5 ou 10 ans, des gens qui vaudront 300, voire 400. La Bezos a passé les 200 milliards. Et malgré son divorce. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas divorcé, il serait plutôt proche de 300. C'est des chiffres que, enfin, même quand on compare la fortune des Rockefeller, etc., on est sur une autre planète. Alors on peut débattre de la méthode d'Oxfam qui, chaque année, publie le nombre de milliardaires qu'il faut additionner pour représenter la fortune, ou en tout cas le patrimoine, de la moitié de l'humanité. Aujourd'hui, on est à 26. Je ne sais pas si un jour, on aura une personne. Et encore une fois, on peut débattre de la méthode, et j'ai mes réserves sur la méthode. Mais fondamentalement, le message, quand vous direz M. Jeff Bezos, par exemple, pèse autant que 3,5 milliards d'êtres humains, on aura un petit sujet. Et donc cette question des taux d'intérêt bas très longtemps, c'est une vague qui est en train de prendre forme et qui va être dévastatrice. Parce qu'en même temps, ceux qui n'ont rien, ou comme disait Marx, les prolétaires, enfin, ils n'ont que leurs mains, on peut caricaturer, mais qui sortent de l'éducation, avec ou pas un diplôme d'enseignement supérieur, avec ou pas des dettes sur les épaules, qu'ils doivent rembourser. Ces gens-là vont être dans un environnement concurrentiel difficile. Du chômage, enfin, moi j'ai des enfants aujourd'hui, c'est pas simple d'être jeune aujourd'hui sur le marché du travail. Donc vous allez avoir une pression sur vos revenus, donc vous allez moins gagner votre vie, à quelques exceptions près, mais enfin, globalement il y a une pression sur les salaires, vous allez épargner moins, et le peu d'épargne que vous allez avoir vous rapportera zéro. Donc la marche de l'accès à la propriété, elle augmente. Donc vous avez des gens qui ont déjà, et qui vont avoir de plus en plus, eux, et leurs héritiers, et des gens qui n'ont pas, et dont la probabilité qu'ils aient un jour est de plus en plus faible. Mmh. Et donc, et pour moi, donc, là, c'est la machine qui s'est mise en place aujourd'hui. C'est le système dans lequel on vit. Et alors, ce que je trouve à la fois intéressant et en même temps dangereux, c'est qu'à ça, on répond... revenu universel d'un côté et taxer les riches de l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans la machine en disant mais peut-être qu'on pourrait limiter ces inégalités en faisant en sorte que les gens soient mieux traités, mieux éduqués, mieux formés tout au long de la vie, etc. On dit on va taxer les riches et on va donner bonne conscience en disant c'est ce que j'avais pris dans un livre précédent, Rome 2.0. Mmh. Sous Rome, vous mettiez le limès, le mur pour arrêter les barbares. Et aujourd'hui, Trump met un mur. Enfin, je veux dire, c'est pas une image. Hein. On met des murs, on dit comme ça, les gens ne peuvent pas passer. Et en interne, c'était du pain et des jeux. Donc, on importe du blé, on distribue du blé, et le gars, ne nous emmerdez pas, vous avez à bouffer, vous pouvez aller voir les jeux, et donc restez tranquille. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le revenu universel, c'est une variante. Enfin, encore une fois, ça vaut la peine de rentrer dans le détail, c'est intéressant. Mais je ne crois pas que ça puisse... Ces deux réponses... qui viennent naturellement alimenter le débat, et en ça c'est intéressant, ne peuvent pas nous exonérer d'une réflexion sur le cœur du système. Comment est-ce que dans les années 60, le rapport entre la rémunération du patron et du collaborateur moyen aux États-Unis était de 1 à 20, et comment elle est de 1 à 300 aujourd'hui ? C'est ça qui s'est passé. Alors c'est un peu moins fort en France, mais quand même. Donc comment est-ce qu'on travaille sur la machine plutôt que d'essayer de corriger de l'extérieur ?
Et ça, on va devoir travailler dessus. Et on doit s'arrêter malheureusement, parce que je sais que vous devez partir, donc malheureusement on doit s'arrêter. Donc je vous pose cette dernière question que je pose à tous mes invités. Comme le podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte.
Alors, ouvrir la porte, pour moi, c'est simple, c'est ouvrir la porte à l'énorme énergie contenue, en particulier chez les plus jeunes. On a une énergie, une générosité, etc. On les place dans une situation intenable, on s'endette sur leur dos. Techniquement, c'est l'argent que j'emprunte aujourd'hui, c'est eux qui vont le rembourser. On laisse une situation où le marché de l'emploi est dégradé, où le climat est dégradé, où un certain nombre de choses passent mal. Et donc, moi, je ne suis pas très fier de passer le témoin dans ces conditions. Mmh. Mais en même temps, quand je les écoute, ils ont compris tout ça. Tout ce qu'on vient de raconter en long, en large, on a pris 45 minutes, eux, en 3 minutes, ça passe. Donc, je pense qu'il y a la porte ouverte à cette énergie. Et s'il y a une priorité cette année, c'est de ne pas jeter toute cette population plus jeune... dans une posture d'hostilité, de tension, de colère, etc. C'est pas facile, hein. Je pense que c'est un enjeu très fort. Et alors, la porte que je veux fermer, c'est la porte à la complaisance. Et dire, écoutez, tout ça, on verra, on a vu d'autres, la technologie va nous sauver, la finance, après tout, l'argent est gratuit. Bon, écoute, chaque chose dans son temps. Ça va pas se régler tout seul.
Super. Merci beaucoup, Bertrand.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !